merci et bienvenue. On est ravis que vous êtes inscrit à cet atelier. L'objectif de cet atelier, inspirez-vous de l'agilité des startups pour intégrer le handicap. Effectivement, sans disposer des mêmes moyens financiers et humains, les startups et les PME, les ETI partagent avec les grandes entreprises la même obligation d'emploi. Et l'idée un peu de cet atelier, c'est de vous montrer que sans disposer de ces mêmes moyens importants, les PME, les startups, il y en a qui sont particulièrement innovantes, et notamment sur le handicap. Donc vous montrer un peu ces startups, ce qu'elles font sur le handicap, comment elles l'intègrent. Voilà, et merci pour vous être inscrit à ce salon. Je passe la parole à Karl.
Bonjour, donc moi c'est Karl Azouri, je suis le fondateur et président de Zenica. Société créée il y a 10 ans. Nous sommes maintenant 220 personnes à peu près, 20 millions de chiffre d'affaires. Et en fait, Zenica, c'est une entreprise de services informatiques, pour ceux qui connaissent. On fait beaucoup de technologie et beaucoup d'agilité. Alors déjà, qui est familier avec l'agilité parmi vous? 1, 2, 3, bon, devant c'est normal, c'est triché, donc pas plus que 2 personnes. Bon, donc on parlera de quelques concepts agiles. Et en fait, le constat, c'est donc nous, on a 10 ans, on est déjà 220 personnes, on a une grosse croissance. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec les cotisations, les contributions à GFIP. Et pour nous, c'est devenu un sujet, et d'abord un sujet financier. Donc c'est parti de là. Et on s'est dit, tiens, voilà, il y a une contribution. Et du coup, comment on peut le traiter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que c'était le point de départ. Donc c'était un point de départ financier. Par contre, après, Zenica, donc, c'est l'entreprise, au passage, qu'on a voulu créer quand nous-mêmes, nous étions consultants. Donc très axé sur les valeurs humaines. Et nous sommes actuellement 4e Great Place to Work dans les entreprises en France, dans les moins de 500 salariés, où il fait bon de travailler. Donc partant de ce constat, on s'est dit, ok, c'est pas juste une opération financière, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On a besoin d'être accompagné pour pouvoir intégrer le handicap, comme d'autres choses, on le verra par la suite, dans l'entreprise.
Alors, je me présente, Jean-François Magne, cabinet Les Monades. Donc moi, j'ai un parcours depuis 10-12 ans sur le handicap, qui, comme bien souvent dans l'expertise de handicap, naît d'une histoire personnelle. J'ai un frère en situation de handicap et j'ai toujours voulu apporter quelques innovations dans les entreprises, et notamment dans les PME, pour intégrer mieux le handicap dans une logique d'inclusion. On a notamment créé la première SS2I avec Société de Services en Informatique avec 40% de travailleurs handicapés, mais une entreprise ordinaire, pas un EA et une ESAT. C'était il y a 10 ans. À l'époque, le préjugé, c'était handicap et performance, est-ce que c'est possible? Donc on a essayé de démontrer que c'était tout à fait possible, qu'on pouvait avoir des consultants de haut niveau en situation de handicap. Et on a créé aussi le premier logiciel de pilotage de gestion budgétaire pour les grands groupes, pour le coup, éthique, qui permettait à l'époque de consolider pour les grands chefs de projet handicap leur DETH, leurs revenus financiers, de vraiment piloter leur mission dans une strate plus grande. La rencontre avec Karl, on en parlera tout à l'heure, et je te laisse lancer.
Alors, donc, le résultat, c'est effectivement notre contribution à GFIP a diminué par 4 suite à cette intervention. Donc, on a pu effectivement procéder des achats, avoir du recrutement aussi de personnes en situation de handicap. Et du coup, on va vous expliquer un peu comment nous avons appliqué la démarche. Donc, en partant d'une entreprise en forte croissance, PME, qui recrute. Et donc, il y aura les prérequis. Donc, Jean-François va vous parler des 3 prérequis. Et après, moi, je vais parler de 4 principes agiles. Et comment ces principes agiles, on les a mis en application dans l'intégration d'une politique handicap au sein de Zenica.
Alors le gros avantage qu'on a eu en rencontrant Karl, parce qu'on rencontre plein d'entrepreneurs qui viennent nous voir en nous disant « C'est quoi cette taxe AGFIP? Ça commence à représenter un montant important, il y a sûrement moyen de l'optimiser. » Alors j'imagine que Karl, et je le sais, c'était aussi la première approche, sauf que Zenica, c'est une entreprise particulièrement humaine, et ils ont tout de suite compris qu'il y avait d'autres enjeux que simplement cette contribution à GFIP, qu'il s'agissait de faire quelque chose pour l'entreprise finalement. Et en fait, on est parti des valeurs de Zenica, et il y en a un certain nombre qui sont très, très compatibles et très cohérentes avec le handicap. Donc le partage, la transparence, la convivialité, l'initiative, les échanges et l'égalité. L'égalité, évidemment, l'égalité des chances, ça a fait écho en nous. Et donc, on s'est servi de ces valeurs-là pour essayer d'inclure le handicap dans une mission globale pour les salariés, c'est-à-dire utiliser leurs valeurs et fédérer les équipes. Même si Karl avait la volonté d'intégrer correctement le handicap par la grande porte et avec les bons moyens, Et une entreprise comme Zenicat, 200 personnes, il y a déjà différents services et il faut que tout le monde soit motivé et tout le monde intègre cette nouvelle démarche handicap. Donc, voilà.
Alors, juste quelques mots sur les valeurs. Donc, ces valeurs, elles n'ont pas été décrétées. C'est des valeurs qui ont été élaborées, trouvées par nos collaborateurs. Donc, on les a sollicités, impliqués dans l'élaboration de ces valeurs. Et en fait, on le constate tous les jours et pas que sur ce sujet-là. Si les choses sont faites en dehors de ces valeurs, elles ont du mal à être acceptées. Donc, être dans les valeurs de l'entreprise et surtout celles qui ont été choisies par les collaborateurs, c'est fondamental.
Alors, on a commencé effectivement à réfléchir en groupe avec des comités de pilotage, des salariés de Zenica, sur la meilleure façon d'intégrer ce nouveau dispositif. Et en fait, on s'est dit que pour que ça colle à tout le monde et que ça parle à tous, plutôt que de l'appeler mission handicap, on va plutôt parler de diversité. Ça tombait bien, à l'époque, Zenica, qui passait de 100 à 200, commençait à avoir des tas de sujets RH à traiter, notamment l'égalité des chances, le télétravail, l'équité homme-femme, la vie de famille. Et ces sujets-là, au fait, on les a englobés avec une nouvelle strate qui est la mission handicap, pour montrer finalement que la mission handicap ne s'adresse pas forcément qu'aux personnes déclarées officiellement en situation de handicap, mais que ça faisait bien partie des services pour tous. Voilà.
Alors, avant de passer sur le slide suivant, il y a un autre point. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a signé la charte diversité. On a appelé le programme Z Diversity. Donc, je fais attention parce qu'il y a DRH et RSE recrutement dans la salle. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et donc, du coup, aussi, on a intégré pas mal de choses sur l'égalité homme-femme, de ne pas faire de discrimination liée à l'âge, de discrimination liée aussi aux origines ethniques, etc. Donc, tout ça, c'est dans un programme plus global qu'on a appelé Z-Diversity, d'inclusion de chacun, puisque c'est un programme global.
Au-delà de ce phénomène d'inclusion, on a aussi cherché à redéfinir finalement le handicap. Et je crois que ça a été un des déclics pour Karl. On a bien évidemment sensibilisé l'ensemble des salariés sur le handicap. Et aussi, on a cherché à expliquer les situations d'handicap. On est passé par là d'abord. Donc en fait, on a effectivement identifié qu'une personne handicapée peut être en situation de handicap, mais qu'elle ne l'est pas toujours par ailleurs. Ici, dans cet exemple, elle l'est évidemment. Mais en tous les cas, elle ne l'est pas forcément. Ici, ça pourrait très bien être un développeur informatique de chez Zenica, qui est handicapé, handicap visible, mais qui pourtant n'est pas en situation de handicap. Qu'est-ce qui fait que son manque de mobilité le rend moins meilleur programmeur qu'un autre ? Absolument rien. Donc l'idée, c'est de démontrer qu'une personne handicapée n'est pas toujours en situation de handicap et que par ailleurs, une personne ordinaire, parfois, peut l'être. Alors, ce n'est pas un exemple pour dire que les femmes enceintes sont handicapées, mais c'est un exemple pour dire qu'on vit tous, en fait, des moments et des situations de handicap. Et effectivement, au bout de 7 mois de grossesse, quand il faut monter les marches de Zenica au 3e étage, il y a des dispositifs de compensation qui se mettent en place naturels, qui fait qu'on va peut-être lui descendre sa feuille plutôt que de la faire grimper au 3e étage. Mais c'est très important pour les collaborateurs de comprendre ces notions-là, parce que le handicap, ça, c'est toujours traité d'un a priori qui est que ça ne nous concerne pas forcément ou qu'on ne veut pas le voir ou que... Surtout que c'est une entreprise particulièrement jeune, Zenica, la moyenne d'âge, ça doit être 32 ans. Donc il a fallu effectivement sensibiliser tout le monde, et même si ce sont des jeunes ouverts d'esprit, les préjugés sont quand même là, différemment, mais ils existent toujours. Cette redéfinition était importante dans le dispositif.
Alors ça, c'est très important, parce que effectivement, quand Jean-François est venu nous faire une journée de sensibilisation, moi, il y a des choses qui m'ont marqué, et ça en particulier. C'est vrai que chez Zenica, on a 3 étages avec des escaliers. Donc, à un moment donné, on peut soit entrer enceinte, soit on a un problème de dos, soit une situation temporaire, en tout cas. Et ça s'est concrétisé aussi par un de nos collaborateurs qui nous a rejoint, était en mission chez le client. Et puis, au bout d'un certain temps, on avait beaucoup de retours le concernant. Et concrètement, c'était quelqu'un un peu désinhibé et qui disait ce qu'il pensait ouvertement, parfois de manière abrupte, et qui a vraiment causé pas mal de petits soucis.
C'était toi ?
Non, c'était pas moi. Et en fait, cette situation, cette notion de situation de handicap aussi a permis d'aborder la problématique différemment. Et en échangeant avec lui, je me suis rendu compte aussi qu'il était sous traitement, qu'il prenait des antidépresseurs, et que ces médicaments le désinhiber en fait. Et donc pendant cette période de 2 ans, et maintenant il n'est plus du tout dans cette situation, mais pendant une période de 2 ans, en fait, son attitude était uniquement explicable par rapport aux médicaments qu'il prenait, ses effets secondaires de ces médicaments. Donc il était en situation de handicap par rapport aux autres, qui poussait même jusqu'à l'exclusion. Et finalement, bon, on a pu prendre le problème à temps et on a pu échanger, partager sur les autres valeurs qu'on va expliciter. Et du coup, la situation s'est beaucoup mieux passée. Mais c'est cette notion de situation de handicap, au-delà des, aussi des handicaps qui peuvent être qui sont irréversibles.
Et de compensation, parce que finalement, le réflexe que tu as eu, c'est de briefer tes équipes sur le fait que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Un médicament a un impact. Et plutôt que de l'exclure ou de se dire que c'est quelqu'un qui est bizarre, du coup, les managers ont pu s'adapter à cette situation temporaire pour prendre en compte ça et ne pas l'exclure. Donc c'était un des premiers exemples qui parle à tout le monde pour une personne qui n'est pas forcément handicapée.
Alors le troisième prérequis sur la communication interne.
Le troisième prérequis, merci Karl. Alors Zenica, tout Zenica avec un Z, tout autour du Z, ils ont les technosaures, ils ont les TEDZ, ils ont aussi Z Factory, ils ont plein de choses. On s'est même demandé si les amours c'était vous, Karl, mais je ne crois pas. Ils ont les indicateurs, donc ils ont toute une communication interne autour de Z que tout le monde connaît par cœur. Et ce qui était très important pour nous, c'est de aussi leur porter le message qu'on va marketer cette communication interne de la mission Z Diversity, pour qu'elle parle à tout le monde, pour que ce soit les mêmes messages, la même valeur. Et c'est très important parce que ça montre aussi, en créant un logo pour une start-up comme ça, une vraie mission, que ce n'est pas un sujet à la marge, que c'est un sujet important, qu'on le traite opérationnellement comme les autres sujets et qu'on en fait vraiment une mission pour l'entreprise. Un service comme les Z Factory ou Z Startup, c'est la possibilité pour Zenica à leurs salariés de créer une boîte, de créer leur boîte au sein de Zenica avec un support de Zenica. Et bien aussi, Z Diversity est un service pour les salariés. Et on a fait évidemment des affiches de sensibilisation qui parlent à leurs employés. Donc Zenica, c'est une entreprise spécialiste de l'open source. Donc on a joué sur le mot open mind, open source et finalement open to you all. Avec les mots, parce que évidemment, c'est une société de geeks, d'informaticiens. Donc on a tourné autour de ça. Pour transmettre le message que, et c'est important aussi pour le recrutement, hein, que la boîte est évidemment ouverte à la diversité et souhaite de la diversité, souhaite créer de la valeur avec de la diversité.
Merci Jean-François, on a très bien parlé. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur cette partie-là, à part qu'effectivement, la communication interne, c'est très important. Ça rejoint aussi le point qu'on avait évoqué tout à l'heure sur les valeurs. Donc vraiment, sensibilisation de tout le monde. Et on va en parler justement dans la deuxième partie sur certains concepts agiles et comment on les a mis en place pour inclure donc, cette démarche. Donc premièrement, c'est sur ce qui s'appelle le management visuel. Donc je ne sais pas si vous êtes tous... Donc non, il y a très peu de personnes qui connaissent l'agilité. Ce
n'est pas ça effectivement. Hein.
Non, ah oui. Le management visuel, voici un exemple qui correspond à de l'agilité. En fait, vous reconnaissez des entreprises qui font de l'agilité ou des bureaux, il y a des post-it partout sur les murs. Voilà. Ça, c'est cliché, mais dès qu'il y a des post-it, vous vous dites, ah, ils font de l'agilité, ou alors ils font des post-itoires. Et donc, en fait, le principe, pourquoi on parle de ça, le management visuel, c'est quoi? C'est en gros, par rapport à des gestions de projets classiques, on se retrouve avec toutes les situations, les tâches qu'on va mettre sur des post-it. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on va avoir, par exemple, 3 colonnes, work in progress, to do, work in progress, done. Et au fur et à mesure, on va déplacer les post-it jusqu'à done. Et ainsi de suite, on peut voir l'état d'avancée des projets. Alors là, c'est important. Pourquoi on en parle là? Parce que quand on fait de l'agilité, ça rend les choses transparentes. Donc on sait où on en est dans le projet. On sait que les personnes qui ont avancé, qui n'ont pas avancé. Donc quelque part, ça peut être pointer les gens du doigt en disant « Ah, ceux-là n'ont pas avancé beaucoup. Finalement, ils sont en retard sur les tâches qu'ils devaient faire, etc. » Donc dès qu'on fait de l'agilité, le principe, c'est de comprendre que cette transparence, ce n'est pas pour pointer quelqu'un du doigt, ce n'est pas pour le vilipender ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment avec une logique, il faut avoir une logique, et c'est pour ça que c'est une approche vraiment top-down qui vient de la direction, de se dire cette transparence nous permet de prendre en compte la situation et de s'adapter et de ne pas juger de la performance, parce que dans l'agilité, il y a des sprints, des itérations, etc. Mais là, l'idée, c'est vraiment pas de juger, c'est juste de comprendre pour savoir quelle action corrective il faut mener. soit formation des personnes, soit compléter l'équipe, soit arranger. Mais c'est beaucoup de transparence. Et donc, dans certains projets agiles, le travers qu'on trouve, c'est que cette transparence amène justement peut-être des moments où les gens sont mis en avant ou malgré eux. Et il faut éviter ça, voilà. Donc, éviter le jugement.
Ouais. Ce qui est effectivement très important, y compris sur le handicap. On était bien content d'avoir cette bonne base chez Zenica où tout est affiché, tout est public, mais en même temps, c'est sous le couvert d'une garantie qu'on ne sera pas jugé, mais qu'on sera accompagné dans ces difficultés. Et c'est aussi quelque chose d'important, évidemment, pour la gestion du handicap et de la diversité en entreprise. Cette transparence, alors il y a tous les employés de Zenica peuvent accéder aux indicateurs.
C'est le Z marketing. Voilà. Il manque Zorro.
Il manque Zorro encore. Et ces indicateurs permettent à tout employé de voir où en est l'entreprise, mois par mois, sur ses objectifs en termes de taux de staffing, de recrutement. On a intégré dans ces indicateurs la partie Z Diversity, la mission handicap, en disant, bah voilà, nombre de RQTH nouvelles ou nombre de salariés recrutés en situation de handicap, mais aussi pourcentage ce mois-ci fait avec le secteur protégé et adapté. Et le message, c'est quoi? C'est de dire, bah, cet objectif-là de Z Diversity, il est comme les autres, comme les objectifs réguliers d'une boîte d'informatique, comme les objectifs financiers. C'est un vrai objectif pour la boîte. Et vous êtes tous acteurs. Parce qu'en voyant ces indicateurs en permanence pour tous les employés, on leur fait passer le message qu'ils ont un rôle. Ce n'est pas juste la mission handicap qui va s'en servir, mais c'est tout le monde.
Ouais, donc ça, c'est des exemples de transparence qu'on a chez nous. Dans le deuxième principe agile, partage, échange, il s'agit de quoi? Tout simplement, dans l'agilité, il y a des process, donc les stand-up meetings, tous les matins, on prend 15 minutes, on reste debout, on échange sur les sujets de la veille pour savoir s'il n'y a pas un point bloquant. Par exemple, dans les équipes agiles aussi, les équipes peuvent choisir déplacer leur bureau, leur chaise, leur table, pour pouvoir s'installer dans des conditions les plus favorables pour travailler. Idem, ce qu'on appelle un des principes, s'appelle le muda, c'est la boue, c'est un mot japonais, c'est-à-dire on veut éliminer le muda, on veut éliminer tout ce qui va empêcher les équipes de fonctionner correctement. Et donc tout ça, c'est aussi de la transparence. Et ça, en fait, c'est les équipes, donc c'est les personnes. C'est les équipes qui choisissent, elles qui savent sur le terrain, c'est elles qui choisissent comment elles vont s'installer pour travailler, c'est elles qui disent, tiens, ce matin, j'ai rien à dire, ou ce matin, tiens, j'ai eu un problème la veille, voilà comment j'aimerais le résoudre. Donc une fois que le premier principe agile, on parlait de top-down, ben maintenant l'idée c'est vraiment d'être du participatif et impliquer toutes les équipes. Et c'est ça aussi qui fait le succès d'une politique handicap, l'intégration de personnes, puisque tout le monde doit être acteur de ça aussi.
Donc on a commencé évidemment la première sensibilisation à l'ensemble des employés de Zenica en allant loin dans les concepts, une sensibilisation de 2 heures, avec à la fin un témoin d'une personne en situation de handicap, développeurs, informaticiens et chefs d'entreprise, pour que ça leur parle évidemment à tous ces employés. Et le point effectivement là-dessus, c'est que ça a permis, la mission handicap a permis de nourrir aussi les concepts agiles, puisque de cette première sensibilisation, Karl a eu des idées en disant on va faire des TED internes, des conférences internes, autres que sur l'informatique. Et ça a donné la naissance au TEDZ, je crois, qui est maintenant en place, où il y a eu d'autres sujets, la guerre. Donc tout ça pour dire que les concepts agiles, effectivement, peuvent nourrir et nous aider dans l'implémentation de cette mission handicap, mais que par ailleurs, le handicap a toujours été source d'innovation. Hein. Même technologie, le vibreur sur vos téléphones, à la base, c'est pour les malentendants. La télécommande, dont on se sert tous pour allumer la télé, c'était pour les personnes à mobilité réduite. Donc, le handicap a toujours été dans l'innovation technologique, mais aussi dans l'innovation sociale. C'est un véritable laboratoire d'innovation sociale.
Exactement. Donc nos deux premières TEDZ, c'est l'amiral Lajoux et ensuite on aura la semaine prochaine un chef d'orchestre. Et les deux, c'est pour venir nous parler du collectif, du travailler ensemble, d'être ensemble. Et effectivement, on s'inspire et on s'alimente aussi. Mais de toute façon, les principes agiles, c'est ça. Hein, et Zenica, au passage, c'est l'anagramme de Kaizen. Et Kaizen, qui est aussi un des 14 principes Lean, qui est l'amélioration continue. Et c'est ce qu'on applique. Et aussi, on se nourrit de ça, parce que c'est des expériences humaines. Et pour nous, ça nous permet aussi de nous améliorer et d'évoluer. Sur le troisième principe, agile. Alors, donc, Il s'agit de quoi? Il s'agit de Lean Startup, il s'agit de Kaizen dont j'en parlais, transformation des organisations. Il s'agit de quoi? Donc quand on est une entreprise comme Zenica en forte croissance, en mode startup, ce qui caractérise la startup, c'est le temps et l'argent. Donc c'est deux ressources importantes. Et donc le Lean Startup, c'est en résumé partir d'un point A, non pas vers un point B, mais vers un point qui fonctionne. Donc bien sûr, il s'agit d'expérimenter ce qu'on appelle les notions de fail fast, sur lesquelles je vais très vite. Donc on teste, on voit si ça échoue, on corrige, on améliore, on avance. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de jouer avec l'humain, mais là on parle vraiment plus de processus. Comment mettre ça en place? Ne pas y passer trop de temps à réfléchir, juste on dit voilà, il y a des principes, être pragmatique, on y va, c'est plein de bonne volonté. Si jamais on se rend compte que ça ne marche pas très bien, ben, de toute façon la direction, on est là et on sait qu'on met en place un environnement où on a le droit à l'erreur. Et donc dans ce principe-là, François, si tu veux...
Alors, effectivement, un exemple de cette transformation, de ce qu'on a transformé rapidement en 10 jours, top chrono, c'était opérationnel chez Zenica. C'est un exemple, un focus sur le processus de recrutement. On a fait aussi le processus d'achat, évidemment, mais il fallait ouvrir le processus de Zenica à la diversité, au principe de non-discrimination. Donc là, vous voyez une petite photo que peut-être certains connaissent, où on voit en fait un recruteur qui dit bah, pour une sélection équitable, chacun doit passer le même test, s'il vous plaît, montez dans cet arbre. Et c'est ce qui se passe globalement dans les entreprises. Évidemment, on se retrouve souvent avec une équipe de singes dans ce genre de dispositif. C'est bien dommage, puisque l'éléphant aurait pu sûrement attraper quelque chose dans l'arbre encore plus facilement. Voilà. Donc le processus, au début, il était évidemment assez simple, hein, une SS2I classique. On identifie des candidats, on est à la recherche permanente de candidats parce qu'on a des nouvelles missions qui s'enchaînent chez les clients. Il faut que ça se passe assez vite parce que les appels d'offres sont courtes. Une sélection et des entretiens, et puis une prise de décision de faire une proposition d'embauche ou pas. En 10 jours, on a rajouté quelques éléments, pas trop, mais pour l'ouvrir à la diversité. Par exemple, d'écrire une fiche, une description de profil adaptée. Parce que quand on veut transmettre, par exemple, à des organismes ou à des cabinets de conseil spécialisés dans le recrutement de personnes handicapées, encore faut-il avoir une fiche propre sur l'emploi qu'on cherche, surtout quand c'est un domaine technologie. Il ne suffit pas de dire je cherche un Java J2E, Scrum Master, Agilist 3.0. Il faut aussi parler des conditions de ce job pour qu'on puisse avoir aussi une sélection qui soit en bon rapport avec le handicap de la personne et ses compétences. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui sert à toute l'entreprise parce qu'avoir une fiche de poste correcte, ça se transmet, ça se valorise au-delà du handicap. Aussi dans le processus d'identification, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a fait beaucoup d'ateliers de formation. Comment chercher différemment des CV aussi, mais comment les lire, ces CV, différemment? Et je connais bien, parce que j'ai dirigé aussi une SS2I, on a tendance à se dire s'il y a un trou dans le CV, sa mission n'est pas longue chez le client, bon, ça ne doit pas être terrible, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Sauf que de l'handicap, les trous dans le CV, quand c'est un accident de la vie, ça peut arriver et c'est parfaitement justifiable, explicable. Et quand on a une politique qui met à la poubelle ces CV-là, on élimine déjà pas mal de candidats en situation de handicap. Donc on a revu tout ça, apprendre à lire les CV différemment. Dans les recrutements, c'est apprendre à aborder le sujet. Quand l'aborder aussi, ce sujet, pour les équipes RH, quand on voit RQTH sur un CV, ça peut rendre mal à l'aise. Quand on n'a pas été formé, on ne sait pas comment l'aborder. On a tendance à tourner l'entretien autour de ça, alors qu'il s'agit bien de recruter quelqu'un avec des compétences. Donc on les a formés et on a revu leur technique pour savoir exactement quand est-ce qu'on en parle, à quel moment, de quelle façon, pour amener aussi cette diversité, pour qu'ils puissent avoir un regard là-dessus. Et puis dans le processus de décision, on a aussi créé un comité pluridisciplinaire de décision quand c'est un candidat en situation de handicap et qui a besoin de compensations pour que ce soit des compensations explicables, justifiables et qu'on puisse prendre une décision adaptée au-delà des préjugés. Et aussi, je termine rapidement, l'intégration qui manquait. On a fait un accueil où il y avait Z-Diversity, un livret d'accueil et un parcours d'intégration.
Alors, sur le quatrième principe agile, c'est... C'est le temps de faire la fête, mais je crois que le cocktail il est à 17h30, je crois, tout à l'heure. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit de ce qu'on appelle le leadership en tant que hôte ou le host as leadership, et un peu aussi la définition de ce que c'est qu'un manager. Donc un manager, on ne va pas rentrer en détail, mais pour nous, c'est un facilitateur. Moi, je suis le président de Zenica, le CEO, et j'utilise comme terme CEO, c'est le Chief Enabler Officer. Et donc, si on prend l'exemple du host as leadership, c'est quoi? C'est donc un type de leadership qu'on rencontre. C'est tout simplement que, comme dans une entreprise, ben en fait, c'est comme une soirée. On organise une soirée, donc on a une entreprise. Et en fait, on invite des gens à cette soirée. Et on invite les personnes, donc on les choisit. Donc on parlait du processus de recrutement tout à l'heure. Donc c'est le même principe. On choisit les personnes qui veulent qu'on souhaite qu'ils rejoignent l'entreprise. Les personnes acceptent ou pas de venir. Une fois que ces personnes sont là, ce qui fait le succès d'une soirée, c'est pas la personne qui a organisé la soirée, c'est les personnes qui sont là, qui viennent chacun avec sa bonne volonté, son apport. Et nous, en tant que facilitateurs ou chief executive officer et tous les managers, on est là comme dans une soirée, pardon, pour passer les plats, faire les relations, les mises en présentation des personnes. Ce qui va faire que derrière, on aura une soirée aboutie. Donc en fait, pour qu'une soirée soit réussie, pour que l'entreprise soit great place to work, un succès, performante, etc., c'est aussi le travail de tous. Et donc le recrutement et les personnes en situation de handicap en font partie aussi et font partie de, cet univers-là.
Et du coup, c'est un lien direct aussi avec le handicap qui a facilité la démarche, et notamment pour la chef de projet Mission Handicap qui a été formée chez Zenica. C'est qu'il y a un principe, voilà. Il y a un principe dans le handicap, c'est qu'en fait, on manage des individus, le management équitable de la singularité, se rendre compte que chaque personne est différente, d'ailleurs en situation de handicap ou pas. Hein. Mais du coup, quand on a la chance de pouvoir mettre en place dans une entreprise qui a déjà des concepts de management qui ne sont pas standardisés, qui ne sont pas normés, qui ne sont pas de masse, bah du coup, c'est assez facile d'intégrer dans ce dispositif l'individualisation du management, la prise en compte de la personne. Parce que le handicap, c'est bien un rapport de nous-mêmes vis-à-vis de la différence, vis-à-vis de la personne, vis-à-vis d'autrui. Une personne qui est évidemment comme vous et moi et qui se manage de manière unique. On n'a pas tous les mêmes drivers, on n'a pas tous les mêmes envies, on ne se ressemble pas. Les personnes handicapées aussi, il faut les manager de manière unique, de manière équitable vis-à-vis des autres aussi. Il ne s'agit pas de favoritisme, il s'agit de compenser pour que tout le monde ait les mêmes chances de réussir. Et ce principe-là était déjà très présent par l'agilité chez Zenica.
Alors, pour terminer, Jean-François, si on devait retenir trois choses.
Si on devait retenir trois choses de tout ça, on aurait pu, bien évidemment, vous développer plein d'autres concepts agiles et plein d'autres choses qu'on a fait chez Zenica. Mais une des vraies choses à retenir, c'est que l'humain est au cœur du dispositif. L'humain est en cœur de l'entreprise et surtout ces entreprises 3.0 qui sont en train de réinventer des modèles sociaux formidables. L'innovation est la clé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le handicap est source d'innovation. Mais les entreprises comme celle de Zenica sont aussi des sources d'innovation. Et quand on cumule les deux, on fait des formidables laboratoires d'innovation sociale et pour tous finalement. Et je dis pour tous parce qu'une des troisièmes choses, l'inclusion des différences permet la réussite de chacun. Effectivement, intégrer cette démarche dans une logique d'inclusion nous a permis de fédérer tous les salariés autour de ça. De ne pas voir le handicap comme quelque chose de différent, d'à part, ou sur le fait qu'on ne soit pas concerné. Avec ce marketing, cette communication interne, ces utilisations des valeurs, on a pu inclure totalement le dispositif. Et aujourd'hui, il y a des salariés qui proposent des sensibilisations différentes, qui proposent un ESAT ou un EA qu'ils ont détecté. Donc tout le monde s'investit et Zenica recrute des personnes handicapées. Il y a des résultats, évidemment.
Exactement. Et moi, je conclurai aussi de mon côté sur ces trois principes. C'est l'humain, vraiment l'humain au centre de tout. Peut-être que vous avez entendu parler d'entreprises libérées. Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose. Bon, voilà, avec tout ce qu'on peut imaginer autour de l'entreprise libérée, des mythes, la réalité, enfin, peu importe. Mais derrière, c'est avoir confiance en l'humain. Savoir que nous, en plus, dans le service, on est notre chiffre d'affaires est vraiment lié aux personnes, puisqu'on est en mission, prestation intellectuelle. On n'est pas en train de faire des produits. Donc, comme dans toute entreprise, l'humain est important, mais encore plus, je dirais, dans la société de service. Voilà.
Donc, l'idée, rapidement, c'était effectivement de vous démontrer que ces startups PME ETI, elles ont des choses formidables à mettre en avant et qu'elles ont été un peu mises de côté ces dernières années par la loi handicap, notamment, alors qu'elles font des choses formidables. Les PME, c'est 99,8% des entreprises françaises et c'est plus de 50% de l'emploi. Et il y a beaucoup de cabinets de conseil qui ne s'intéressent pas à ces petites sociétés parce que le budget n'est pas la même que dans celle d'une grande banque, évidemment, les moyens non plus. Et pourtant, l'employabilité, pour booster l'employabilité des personnes en situation de handicap, ça va passer aussi par ces PME qui, par ailleurs, disposent de formidables ressources pour faire des choses vite et bien.
Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors maintenant, c'est... C'est les questions.
Avez-vous des questions sur l'agilité, sur le handicap ou sur les deux ?
Pas de questions, n'hésitez pas. C'est participatif. Ah, une question.
Merci, madame.
Bonjour. Qui sont les personnes que vous recrutez en situation de handicap ?
Chez Zenica, vous voulez dire ?
Oui, chez Zenica.
Ah, ça peut être tout type de poste. Alors, je comprends la question parce qu'effectivement, la plupart des employés de Zenica sont Bac plus 5. C'est une entreprise exigeante. 80% des personnes handicapées n'ont pas de niveau le Bac. Cela dit, il y a aussi des informaticiens. L'informatique a été quelque chose de formidable à une époque pour les personnes en situation de handicap de s'ouvrir sur le monde. Donc, on retrouve quand même pas mal d'informaticiens qui sont en situation de handicap. Et puis, de toute façon, les informaticiens, la population vieillit aussi, mais tout type de poste. La première salariée en situation de handicap, tu peux peut-être en parler, Karl. Il fallait un exemple qui se passe bien, qui s'intègre. La première fois qu'on recrute une personne handicapée, c'est comme tout, le premier recours au STPA, soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Et malheureusement, dans le handicap, quand ça se passe mal, tout de suite, les préjugés reviennent au galop.
Oui, non, il s'agit d'une personne qu'on a recrutée à l'accueil et qui, anciennement, son métier, c'était coiffeur. Et en fait, effectivement, sur le CV, ça n'a strictement rien à voir avec notre modèle d'entreprise. Et on parlait de lecture de CV autrement, mais en fait, c'est quelqu'un qui, de par son métier, parle aux gens, est spontané, naturel, etc. Et quand on rentre dans l'entreprise, surtout une start-up, mais dans n'importe quelle entreprise, la première impression qu'on a, c'est quand même l'accueil, la réception. Et donc là, ça se passe effectivement super bien.
Et mine de rien, on lui a permis de... Donc c'est une personne qui a une allergie, hein, qui a un cabinet de coiffure et qui devient allergique aux produits de coiffure. Donc quand on est passionné par son métier, qu'on a ouvert sa boutique et qu'on doit changer de métier, trouver une entreprise comme Zenica qui ne s'est pas cantonnée de dire on veut une assistante qui travaille dans une autre SS2I et qui a 5 ans d'expérience, etc. On a pris juste l'angle de ses compétences. Hyper à l'aise au téléphone, hyper communicative, le sens du sourire, habitué à parler à tout type de population. Et cette personne-là est maintenant à grimper 3 strates, je crois, et monte les échelons chez Zenica. Et ça lui a permis un nouveau job.
Alors, avant qu'on se fasse couper la parole, est-ce qu'il y a une dernière question ? Profitez-en, c'est maintenant.
T'es où ? Alors, vous avez parlé d'un seul aspect du handicap, qui est le recrutement par les entreprises. Il y a un deuxième aspect qui est les personnes en situation de handicap qui sont dans les EA et les ESAT.
Oui.
Comment une start-up peut les intégrer ?
Alors, on a donné un exemple, c'est le processus de recrutement. Et le deuxième exemple qu'on aurait pu donner, c'est le processus d'achat. On a aussi revu chez Zenica le processus d'achat et l'ouverture à la diversité du processus d'achat. Comment je vais sortir de mes petits fournisseurs habituels que je connais bien ? Pour avoir recours au STPA, donc ça passe par une formation qui montre déjà ce que sont capables de faire ces entreprises. Il y a aussi des a priori et des préjugés là-dessus. Et de fixer des objectifs aussi, d'incentiver les départements achats qui commandent des plateaux repas, par exemple. Ça va commencer forcément par quelque chose comme ça, mais se rendre compte que le premier plateau repas, la qualité est au moins aussi bien, que le délai est dans les timings. Ça incite tout le monde à revoir son comportement vis-à-vis des achats responsables. Ça augmente tous les mois chez Zenica, la part. En tous les cas, c'est pas une entreprise qui achète énormément, mais qui commence de plus en plus. Donc on a aussi refondu ce processus d'achat avec cette même méthodologie agile, ce qui fait qu'en quelques jours, c'était ouvert au dispositif et on commençait à intégrer, à chercher des ESATEA compétentes par rapport à nos besoins. Toujours dans une logique d'inclusion, pas pour faire plaisir, hein, juste parce qu'on a des besoins et que c'est des fournisseurs performants. Alors si en plus on peut justement faire bosser des personnes handicapées qu'on ne peut pas recruter forcément chez Zenica, c'est aussi ça, hein, le secteur protégé adapté, c'est de permettre d'avoir un travail quand on ne peut pas être dans le milieu ordinaire. Donc c'est un rôle capital, pour moi en tous les cas. tout le monde n'a pas la chance d'avoir fait 5 ans d'études, etc.
Et juste pour compléter, il y a Laure qui est notre chef de projet handicap qui est là justement et qui a profité du salon pour regarder tout ça. Comme tous ces salons, quand on parle de Great Place to Work, ça nous a permis de prendre des bonnes pratiques aussi d'autres entreprises. Et l'idée, c'est aussi de profiter de cette journée pour s'inspirer de bonnes pratiques.
Merci beaucoup et bonne journée à tous.